Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Ça tombe bien, on a des déficits à l'horizon. Nicolas, comment ça va?
Ben, c'est pas bien, vous autres?
Ça va bien. On va avoir à peu près 7 milliards à trouver dans les 2-3 prochaines années. C'est beaucoup de compression, ça. Si on veut faire un référendum après ça, comment tu vois la game? Les gouvernements n'ont pas le choix de couper, là.
Ben, ils n'ont pas le choix de couper, c'est certain. Puis en même temps, dans un contexte électoral, c'est pas ça qu'ils vont promettre non plus. Je pense qu'à l'exception peut-être du Parti conservateur, pas mal tout le monde va promettre plutôt faire des promesses de dépenses de nouveaux programmes. C'est notamment déjà le cas pour Québec solidaire. Ça, il y a personne qui est surpris. Et mettons qu'on va voir pour les autres partis politiques, le PLQ, on a hâte de voir leur offre, mais on entend plutôt les promesses de meilleure gestion, on n'entend pas les promesses de réduction des dépenses. Puis pour le Parti québécois, ben on n'a pas non plus de promesses à ce niveau-là, mais on sait que dans l'ensemble, si un ménage que lieu, ça va être dans certains programmes seulement. Il y avait déjà parlé auparavant des subventions aux entreprises, mais encore là, on reste en surface. Donc, considérant que c'est le Parti québécois qui risque de former le prochain gouvernement, on s'entend que la pression sur leurs épaules devrait être assez importante présentement pour qu'ils présentent un plan de contrôle des dépenses, puis il n'y a rien de ça, du moins, qui a été présenté pour l'instant. Puis là, bien sûr, ce matin, on parle d'un report d'un référendum jusqu'en 2029.
Ouais.
Comme le disait François il y a quelques instants, on s'entend, là, de un, c'est beaucoup mieux de faire ça en début de mandat qu'en fin de mandat, parce que à la fin, ça devient un référendum quasiment contre le gouvernement et non pas juste pour faire l'indépendance du Québec. Voilà. Donc, les gens vont juger le Parti québécois en fonction de ses actions des trois premières années de mandat. Puis dans un autre temps, en 2028, on retourne en négociation des conventions collectives avec les syndicats de la fonction publique. Ça passe mal, malheureusement. Ça va avoir un impact non négligeable sur le référendum qui va suivre, puis sur la capacité du PQ à rallier d'ici là. J'allais être franc, je pense que quand même le fait de calculer que le facteur Trump dans l'équation, c'est pas mauvais en soi, mais il y a quand même beaucoup plus dans l'image que ce qui est présenté. Donc, au final, je veux dire, j'ai hâte de voir ce que le Parti québécois va promettre, parce que d'après moi, s'il repousse le référendum, c'est-à-dire que les trois premières années, ils s'engageront qu'à faire de la gouvernance. Donc, ils vont faire leur preuve. Puis là, en plus, ils sont minoritaires. Ils vont avoir les deux mains attachées. Puis c'est là qu'ils n'auront pas le choix de livrer. Si, par exemple, il y a un parti comme le Parti conservateur qui a la balance du pouvoir, ça pourrait les aider justement à prendre des bonnes décisions. Mais est-ce que ça va les garder dans une position populaire jusqu'au référendum? Ça, c'est une autre question. Mais à la fin, pour venir, par exemple, sur le rapport de la vérificatrice générale, il faut quand même mentionner une chose. On parle de compression, en fait, de compression de dépenses, essentiellement. Donc, comme on mentionnait là, il y a quelques jours, je pense que c'est ce qu'il disait, qu'essentiellement, le plan d'Éric Girard, ça ressemble à celui de Philippe Couillard et de Carlos Letao. Ce qui est quand même pas faux dans l'ensemble, parce que...
Bien là, la croissance des dépenses passe de 6 % à 2,3 puis même à 1 % par année.
Ben, exactement. Puis à la fin, je veux dire, j'ai pas beaucoup de bonnes choses à dire sur le leg d'Éric Girard, mais il n'en reste que au niveau du contrôle des dépenses, c'est quand même une des meilleures options qu'il y avait sur la table. Donc, c'est tant mieux s'il va dans cette direction-là. Maintenant, il faut que ce soit soutenu. Puis ça, dès qu'il va y avoir un soubresaut dans les négociations, que ce soit avec les syndicats dans quelques années ou que ce soit à l'arrivée du nouveau gouvernement au pouvoir, ça se peut que ces plans de compression-là prennent une débarque. Puis en même temps, disons-le franchement, ça va dépendre du caucus qui va être à l'entour du premier ministre. Puis quand je regarde, par exemple, l'entourage du futur peut-être premier ministre que sera Paul Saint-Pierre-Plamondon, ben je me demande s'il va céder à la pression qui va être exercée sur lui justement par rapport aux différentes enveloppes ministérielles qu'il va distribuer. Donc, est-ce que ces compressions-là vont suivre? Ben je pense pas. Mais à la fin, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'un plan pour l'équilibre budgétaire, tant soit tant qu'il n'est pas réalisé, on ne fait qu'endetter le Québec. Puis ça, ben, je me demande quand est-ce que ça va prendre fin. Puis pour l'instant, je ne crois pas que le plan présentement va se réaliser.
Là, vous faites une sortie sur le prix de l'essence aussi, la part des taxes qu'il y a dans le prix qu'on paye à la pompe. Là, quelque chose qu'il faut répéter souvent, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec ça. Là, ce que tu nous dis, c'est en 2030, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va être pire que ça actuellement. Là.
Exactement. Ben déjà aujourd'hui, on n'est pas dans une bonne posture. En fait, le but de notre rapport annuel, c'est le 28e qu'on relâche. Donc, ça fait depuis 1998 qu'à chaque année, on met à jour ce rapport-là pour informer les Canadiens d'un bout à l'autre du pays sur la réalité qui les attend dans les stations de service. Puis cette année, ben Montréal sort vraiment en tête de liste comme étant la place au Canada où est-ce qu'on paye le plus de taxes sur l'essence à travers donc tout le pays. Donc des fois, j'entends les gens de Québec rire en arrière, mais la réalité, c'est que Québec, on est juste deuxième. Là, on n'est pas nécessairement dans une meilleure posture. Donc
on
le
est
reste
bon,
du
on
Québec,
est bon là. Ouais, on est bon.
C'est ça. Mais puis la grande différence entre Québec et Montréal, ben en fait, quand je dis Québec, c'est le reste du Québec. c'est la fameuse taxe de 3 cents par litre d'essence sur le transport, pour le transport en commun, que pour l'instant, vous êtes chanceux de ne pas payer. Mais c'est pas mal ça. Donc, à Montréal, 35 % de la facture, c'est des taxes. Dans le reste du Québec, c'est à peu près 33 % clairement, donc 1 $ sur 3 qu'on paye dans une station de service, ça s'en va d'un poste du gouvernement fédéral ou provincial. Puis en plus, il faut dire, présentement, on a comme un genre de rabais parce que la taxe d'assise fédérale est suspendue jusqu'au 8 septembre. Donc, dès qu'elle va revenir, on va payer encore plus cher, inévitablement. Mais d'ici 2030, au Québec, à cause du fait qu'on a une taxe carbone, malheureusement, ça se peut qu'on paye plus cher. Ben, pas que ça se peut, il y a des fortes chances qu'on paye
ça
beaucoup
plus cher.
Ça va
monter, oui, c'est ça.
C'est ça. Donc, présentement, c'est à peu près 9,4 cents par litre d'essence. Mais dans les dernières projections du gouvernement, pour 2030, en fonction de la variation des prix sur le marché du carbone entre le Québec et la Californie, puis maintenant, bon, l'État de Washington se rajoute au lot, ben on parlait d'un prix aux alentours de 22 voire 23 cents par litre d'essence en 2030 versus 9,4 cents cette année. Donc, ça veut dire que ça va plus que doubler d'ici la fin de la décennie. Puis, en plus de ça, il faut dire, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral taxent les taxes sur l'essence. Donc, il y a comme un effet de gonflement qui est lié à la double taxation qui va s'opérer. Donc, en 2030, c'est pas loin d'1 $ sur deux qu'on va payer dans les stations de service qui vont être des taxes essentiellement. Les automobilistes vont devoir se cramponner. Puis, en même temps, de notre côté, on martèle le fait que c'est une occasion rêvée pour tous les partis politiques présentement d'offrir des allègements aux automobilistes. Il y a la fameuse taxe carbone, mais il y a aussi la taxe provinciale sur les carburants de 19,2 cents. Bref, il y a des mécanismes qui peuvent être suspendus maintenant pour donner un peu d'air aux automobilistes, mais ça va prendre un minimum de courage politique pour le faire.
Est-ce qu'on doit abandonner la taxe carbone? Est-ce qu'on doit l'annuler?
D'un, c'est pas mal notre cible principale. Et ça, aussi longtemps qu'on va l'avoir au Québec, dans notre rapport, on la surligne. On est quand même les seuls à la payer présentement. Donc, c'est sûr qu'on veut son abolition, surtout qu'on sait qu'on peut l'abolir à coût nul. Ça a déjà été mentionné à plusieurs reprises parce que les revenus de la taxe carbone vont dans un fameux fonds vert ou un fonds électrification et changement climatique qui servent essentiellement à distribuer des subventions. Donc, couper la taxe carbone et couper les programmes de subvention, puis ça arrive à coût nul. Donc, c'est sûr qu'on veut l'éliminer en premier, surtout dans un contexte où ça nuit un peu, au portefeuille des gens, puis aussi à la productivité de l'économie québécoise. Mais il y a aussi, comme je le disais, il y a d'autres taxes qui peuvent également, en plus de la taxe carbone, être suspendues dès maintenant. Si par exemple, Mme Fréchette avait ce courage politique-là, puis elle disait, écoutez, la taxe carbone, c'est fini maintenant, puis on suspend la taxe provinciale sur les carburants de 19 cents, mine de rien, le prix de l'essence drop de 30 cents demain. Hein? Ça décide de faire ça. Bien sûr, peut-être pas du jour au lendemain, mais quand même, ça va se faire. Là. C'est pas mal l'effet qu'on devrait s'attendre dans une station de service, parce que c'est quand même deux taxes qui prennent à eux seuls 30 cents par litre d'essence. Donc, il y a de la marge, bien sûr. On s'entend qu'il y a un calcul, ou plutôt un exercice comptable qui doit être effectué. C'est-à-dire, si on se prive de revenus au gouvernement et qu'on en laisse davantage dans les poches des contribuables, il faut qu'on révise les dépenses également. Puis ça, ça va ajouter un poids supplémentaire sur les épaules du prochain ministre des Finances qui va devoir équilibrer les finances publiques, justement, en prenant en compte ce facteur-là.
Mais qui, au gouvernement, a une oreille attentive à ce que vous dites? Est-ce que vous parlez dans le vide? Y a-t-il du monde qui vous rappelle? Ou il y a le Parti conservateur d'Éric Duhaime qui en parle beaucoup de ça, là? Mais dans les autres partis, c'est quoi? Vous avez-vous un feedback, un retour?
Oui, j'ai eu du retour. Je dis sincèrement, on a eu un retour de la part du Parti québécois sur la question de la double taxation, notamment où est-ce que justement on applique des taxes sur les taxes, parce qu'on a des taxes spécifiques comme la taxe provinciale sur les carburants, mais on a aussi la fameuse TVQ qui s'applique sur cette taxe-là dans les stations de service. Même chose pour la TPS qui s'applique sur la taxe d'assise fédérale, qui heureusement on la paye pas pour l'instant, mais en temps et lieu, on va payer deux fois la taxe sur la taxe. Donc, le Parti québécois a compris cet enjeu-là, puis il y a vraiment eu comme un engagement un peu, là. Je ne sais pas s'ils l'ont mis dans leur plateau ou si ça va être présent, on l'espère. Mais il y a une ouverture à ce niveau-là. Même chose pour une réduction, ne serait-ce que temporaire et partielle, de la taxe provinciale sur les carburants. Malheureusement, le Parti québécois est quand même bien attaché à la fameuse taxe carbone. Donc ça, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Mais pour les autres partis politiques, pour Québec solidaire, malheureusement, on n'a pas de retour. Puis pour le Parti libéral du Québec, on n'a pas non plus de retour. La CAQ, ils ont pris comme certaines de nos idées. On avait pris notamment pour le remboursement de la taxe carbone pour les agriculteurs, dans le but d'ouvrir une brèche pour que la taxe carbone soit abolie pour tout le monde éventuellement. mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Là. Donc, puis en plus, il faut le dire, le remboursement de la taxe carbone pour les agriculteurs, c'est juste bon pour 2027 puis 2028, ou plutôt pour cette année puis 2027. Donc, en 2028, la taxe carbone pour les agriculteurs, à moins que rien soit fait, va revenir. Donc, le problème, encore une fois, c'est que la CAQ s'est contentée d'une demi-mesure qui est temporaire, alors que nous, on demande une mesure réelle et permanente.
À chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, tu as toujours des politiciens qui arrivent en nous disant « Mais si on abolissait ça, c'est-à-dire si on sortait du fait de la fameuse bourse du carbone, ça coûterait des milliards à faire ça. » C'est une rhétorique que on entend souvent. C'est-tu vrai ça ou c'est une affaire inventée? Là?
Ben c'est parfaitement inventé parce que la réalité c'est que c'est basé entièrement sur des attentes de dépenses, c'est-à-dire que bon on établit que le fonds vert par exemple, il y a un budget là, je prends pour 2024-2025, ils ont été cherchés pas loin de 1,3 milliard de dollars en revenus, donc cet argent-là serait pas perçu si par exemple il y avait pas de taxe carbone. Mais en contrepartie, c'est parce que cet argent-là, on prévoit la dépenser, donc d'où le fameux manque à gagner. Mais comme je vous le disais, si vous abolissez le fonds vert, puis que vous abolissez la taxe carbone, ben vous n'avez pas les revenus, mais vous n'avez pas les dépenses non plus. Donc au final, c'est pas vrai qu'on va en abolissant la taxe carbone, du jour au lendemain, ça va nous coûter des milliards. Il faut aussi qu'on fasse l'effort comptable de supprimer les termes de dépenses qui s'y rattachent.
Oui, parce que cette bourse du carbone, on est lié à la Californie, hein? C'est une espèce des droits d'émission. Ça, y a-tu un opting-out dans cette organisation-là où on doit payer, compenser des droits d'émission qu'on a déjà compensés? Comment ça fonctionne? Parce que je pense que l'Ontario est sorti de là. Il y en a d'autres. C'est la Colombie-Britannique aussi qui est sorti de là?
Oui, exactement. Ben, en fait, la Colombie-Britannique, ils sont dans leur propre système, puis finalement, ils ont décidé de l'abandonner tout court. Okay. Puis ils étaient comme indexés, mais pas indexés, mais arrimés à la taxe carbone fédérale. Mais en contrepartie, pour l'Ontario, de leur côté, ils sont restés comme pas assez longtemps, on dirait, pour que ça ait vraiment un impact. Et on parlait de manque à gagner, je pense, dans leur cas, de 3 milliards de dollars, mais encore une fois, c'est en fonction des revenus espérés à travers cette taxe carbone-là. Mais quand on regarde, par exemple, les articles de l'entente Québec-Californie, pour ce marché-là, en fait, il n'y a pas de règlement qui empêche les États membres, en fait, de s'en
retirer. Ouais. Fait que c'est une campagne de peur, cette affaire-là.
Oui, exactement. Là. À n'importe quel moment, les pays membres de cette entente-là peuvent en sortir. Puis il n'y a rien qui force le gouvernement à bail-out les entreprises parce qu'à la fin de la journée, elles n'auront plus besoin d'acheter des droits d'émission dans le futur. Donc, elles peuvent vendre leurs droits d'émission peut-être, oui, à perte dans une certaine mesure, mais après ça, elles n'auront plus besoin d'en acheter. Donc, elles vont profiter quand même d'une certaine, comment dire, d'un répit par la suite. Puis il faut quand même le dire franchement, les entreprises payent les droits d'émission donc ils sont obligés d'acquérir à cause du système de plafonnement, mais qui paye réellement la taxe carbone? Bien, c'est nous autres.
Bien, on la paye deux fois, là, finalement. On la paye sous l'essence, mais on la paye dans tous les produits et services que ces entreprises-là doivent payer comme droit d'émission, donc elles le refilent en coûts indirects sur leurs produits et services.
Exactement. Puis il faut quand même rappeler aussi qu'au Québec...
C'est de l'inflation, ça.
Ben oui, puis comme c'était pas assez au Québec, on est les seuls, possiblement la seule juridiction en Amérique du Nord qui a une taxe carbone, mais qui n'a pas eu de système de remise ou de crédit remise comme le système
de la taxe carbone fédérale. Non, l'argent, il y a à garde pour donner à des nananes, à des entreprises.
Dans leur slush fund.
Ils choisissent les gagnants, eux autres.
Exactement. Donc, au final, on n'est pas du tout gagnant à le maintenir de notre côté. Puis la beauté de la chose, c'est qu'il y a déjà un aveu de la part de Mme Fréchette de son côté, puis de dire, ben écoutez, si les agriculteurs considèrent que la taxe carbone, ça nuit à leurs opérations puis que ça augmente les coûts, ben, on va les rembourser. Mais si tu reconnais que ça augmente les coûts pour les agriculteurs, tu devrais reconnaître que ça augmente les coûts pour les livreurs, pour les camionneurs.
Éric Girard l'avait dit assez clair là-dessus. Nicolas Gagnon, je te laisse aller. Je sais que tu as d'autres entrevues. Merci beaucoup. Fédération canadienne des contribuables, on se reparle.
Ça fait plaisir, à bientôt.
Bye bye. Merci beaucoup. Voilà. Mais tu sais, l'histoire de la Californie, là, c'est encore pour se mettre dans parade, là. Tu sais, je sais pas, là, il y a des politiciens d'ici qui ont dit, hey, on va faire une bourse avec l'État le plus loin possible dans le continent en pensant que tout le monde va se joindre à nous.
Mais si c'était si bon que ça, je veux dire, tous les États auraient embarqué là-dedans.
Ils n'ont pas embarqué. Non, ils ont dit, c'est un schéma de Ponzi, on va laver notre monde. Puis là, t'as nos entreprises ici qui se battent contre l'Ontario, contre les Américains. Eux autres doivent payer ici des droits d'émission. T'es pénalisé par rapport à leurs compétiteurs partout dans le monde.
Mais ils sont comme illusionnés par le fait en se disant que, ouais, mais de toute façon, c'est pas grave, tous les chars vont être électriques rendus là.
Ben, c'était-tu de la vertu, ça? C'était-tu du signaling?
Ben, c'est surtout de l'aveuglement.
De la grande vertu de dire, regardez, nous autres, on est les premiers à le faire, puis tout le monde va suivre. Parce que nous autres, on a su. Nous autres, on a su. On est allé à Davos, on a rencontré du monde bizarre, des gens peut-être de McKinsey aussi. Puis ils nous ont dit qu'on s'en allait là.
Oui, oui, ils savent c'est quoi l'avenir, eux autres.
M. Soros était convaincu qu'on s'en allait là aussi, là. Aïe, 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 hein? C'est ça.
C'est ça.
Voilà. Bon, hey, après la pause, Rodolphe débarque. Rodolphe Osny, il y a pas mal de choses à dire sur le PQ.
Je pense que oui.
Puis je veux l'entendre parce que Rodolphe, il a fait quand même un tweet cette semaine, un X, parlant de... Parce que lui, il était chroniqueur à Radio-Canada.
Oui.
Et lui, il a dit qu'à chaque fois qu'il fallait qu'il... qu'il prenait... En tout cas, qu'il allait en onde, il fallait qu'il trouve un sujet woke à chaque fois. Donc, est-ce que Radio-Canada s'est wokeisé?
Ouais, ça brasse son affaire, je pense.
Ouais, ben là, écoute, mais il y a d'autres. Dimitri Soudas qui dit non, non, nous autres, on n'est pas woke. Ben non, vous n'êtes pas woke. On n'entend pas ce que vous dites, par exemple. Là.
Non, c'est ça.
Hein, ça se peut-tu? Voilà, ben après la pause, Rodolphe débarque.
Couture.
Restez là.
Dans le mid.
On revient dans un instant.
Radio X.